FM Chaîne 88.4 sur les ondes de Radio Galère comme tous les lundis de 20h à 21h et plus selon les semaines.
Salut.
Ouais, salut.
Et ce soir, une émission spéciale Léon de Matisse qui va vous parler de son bouquin Crise. Voilà, mais on va commencer avec un petit agenda de ce qui se passe à Marseille. Donc, le premier encart dont on voulait vous parler, c'est la cuisine, comme tous les deuxièmes vendredis du mois, qui accueille une cantine pour cantiner. Voilà, cantine de soutien à un prisonnier longue peine. Et du coup, bah, ce sera ce vendredi à partir de 20h. C'est à la cuisine, donc au 36 rue Bernard, et vous êtes invité à venir déguster un plat typiquement américain à base de hamburger.
Et rock'n'roll à tous les étages. Et
en début de soirée, 18-19h, il y a aussi un concert de soutien. C'est à l'Exodus, qui est un nouveau lieu qu'a ouvert au 9 rue des Trois Mages. Et c'est un concert de soutien à une caisse d'autodéfense phocéenne, comme elle s'appelle. Voilà, une nouvelle caisse de solidarité à Marseille, et donc je vais vous lire leur petit tract. Le développement des lois sécuritaires et des moyens accordés aux flics en tout genre forme la structure du système répressif. Ces soi-disant abus, dérapages, bavures sont plutôt l'un des points d'appui de cette logique et sont très largement couverts par les tribunaux. Par exemple, pour les flics, outrage et rébellion est devenu une accusation fourre-tout qui masque mal sa réelle fonction, à savoir leur permettre d'être aussi arrogants et agressifs qu'ils le veulent, de justifier leur violence et de se retourner contre celles et ceux qui en sont les cibles, tout en arrondissant leur fin de mois. Ici comme ailleurs, on se retrouve souvent seul face à la machine répressive, et on est souvent démuni, même lorsqu'on est entouré. La logique d'isolement qui s'abat commence alors en garde à vue, se poursuit dans les tribunaux et se termine parfois en prison. Ici comme ailleurs, ce sont les plus démunis, les moins médiatiquement et politiquement corrects, qui sont les plus touchés. Le principe de cette caisse de solidarité n'est pas uniquement d'apporter un soutien financier aux personnes confrontées à la répression, mais de briser collectivement cet isolement. Il s'agit de se préparer et de s'organiser en amont de celle-ci, c'est-à-dire de se rassembler pour partager les ficelles juridiques qui permettent de s'en sortir au mieux, de tenter de développer un réseau d'avocats compétents et concernés par ces problèmes, et de trouver les fonds nécessaires. Voilà, donc ça s'appelle la CAP, la Caisse d'autodéfense phocéenne, et c'est donc un outil de lutte qui se veut à la portée de celles et ceux qui se retrouvent face à la police et ou à la justice, à Marseille et dans sa région, et parfois au-delà si le besoin s'en fait sentir. Voilà, voilà. Et donc, si jamais vous souhaitez leur écrire, c'est cap, C-A-P-E, at riseup.net. Voilà, et c'est donc vendredi.
À 18h, à l'Exodus.
Ouais, c'est 9 rue des Trois Mages.
Voilà, un concert avec Larsin, groupe de Hoy de Lille, et Tortilla Flat, un groupe de Cumbia.
Ouais, et que d'ailleurs, si jamais vraiment vous n'êtes pas dispo pour aller les écouter vendredi, vous pouvez aussi entendre jeudi soir au Molotov. Voilà, voilà, voilà.
On a et fait puis... un petit agenda vite fait bien fait, et puis on peut commencer le thème.
Ouais, et donc on va vous parler de la croissance pour commencer.
La crise.
0,8%, 0,3%, 0,1%. Le débat s'emballe entre le gouvernement, l'opposition, la Commission européenne et on ne sait qui encore sur les prévisions de croissance en 2013. Tous ces acteurs s'accordent pourtant sur un point. La croissance est indispensable. Et plus il y en a, mieux c'est. Mais que signifie croissance ? Plus de profits pour les capitalistes, plus de boulot, donc plus de salaire, mais aussi plus d'exploitation pour les gens qui travaillent, et aussi plus d'épuisement des ressources et de destruction du milieu naturel, jusqu'à une limite fatale dont on s'approche peut-être dangereusement. Pour autant, il est naïf d'en appeler à une décroissance concertée et maîtrisée. Le capitalisme ne peut pas décroître volontairement. Son déséquilibre dynamique exige une accumulation continue, que seules des crises viennent parfois violemment contrarier. Le capitalisme est un système d'exploitation et de domination qui a la particularité d'embarquer tout le monde, dominant comme dominé, dans son emballement sans issue. Mais ceux qui en bénéficient, les patrons, les politiciens, les élites sociales, préfère entraîner le monde entier dans cette course vers la mort plutôt que de risquer de perdre leurs misérables privilèges.
Ouais, et du coup on va continuer avec un deuxième texte de Léon de Matisse en guise d'introduction. En février et en mars, comme en Grèce, en Italie ou au Portugal, les Espagnols ont manifesté contre les mesures d'austérité sans fin. La lutte contre les effets de la crise, encore limitée en France, atteint dans les pays du sud de l'Europe une dimension critique. On entend souvent, dans ces manifestations, des slogans contre la dictature des marchés ou le coup d'état de la finance. Il faut le dire et le re-redire, ce n'est pas la finance le problème. La finance n'est que la traduction, dans des termes plus visibles, de ce qu'est le capitalisme. Ce n'est pas la finance qui domine, qui exploite et qui écrase, c'est le système social tout entier. Refuser l'austérité, ce n'est pas contester le pouvoir des seuls banquiers ou financiers. C'est contester le pouvoir tout court, celui qu'exercent tous les capitalistes et leurs divers agents. Croire que la finance est le problème, c'est s'imaginer que l'État pourrait la réguler et nous sauver de ses excès. Mais l'État n'est pas un rempart contre les excès du capitalisme. Tout au contraire, c'est un rempart contre la colère des prolétaires. On l'a vu encore une fois devant Goodyear au début du mois de mars. On le voit déjà tous les jours en Grèce. On le verra encore partout où il faudra renforcer l'exploitation pour sauver l'économie capitaliste. Refuser l'austérité ne se fait pas en réformant l'économie, mais en la précipitant dans l'abîme.
Last war.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness, huh?
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
Like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war.
Vous croyez que la fin donne la possibilité de choisir?
Je crois qu'un homme, un vrai, choisit toujours.
Je travaillais, j'augmentais la productivité, je me crevais le cul au boulot, je me crevais le cul. Nous sommes comme les machines. Vous comprenez que je suis une machine? Je suis une poulie, je suis un boulon, je suis une vis, je suis une courroie de transmission.
Vous voyez comme c'est la vie? Vous êtes 10, 12, moi je suis seul. Mais quand je dis on va faire un tour, on fait un tour. Et quand je dis c'est par là, on va par là. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que partout, toujours et dans tous les cas, il y a un patron et les autres. Les autres subissent la loi, le patron fait la loi. Et il contrôle.
Il contrôle, il contrôle, il contrôle.
Vous acceptez l'inégalité, vous défendez les privilèges. Au fond, c'est dans la propriété que vous croyez. Votre ordre moral, c'est l'exploitation d'une majorité par une minorité.
L'exploitation, le grand mot.
Le cerveau, c'est la direction centrale. Il décide. Il fait des projets. Il programme. Il met en route la production. Ah. Et l'homme, lui, il entre en piste. Il se met en mouvement. Les bras, les jambes, la bouche, les yeux, la langue. Tout se met en mouvement. Il fonctionne. Il attrape la nourriture qui est la matière première. L'homme travaille pour manger.
Tout ça fait une belle série de coïncidences.
Vous y croyez, vous, aux coïncidences?
Généralement pas.
L'acte essentiel de la guerre moderne est la destruction du produit du travail humain. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pour but de conserver la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Et son objet n'est pas de remporter la victoire sur l'Eurasia ou l'Estasia, mais de garder la structure même de la société intacte.
Coïncidence.
Heureusement, vous n'y croyez pas.
Et si, quand elle se répète, nous y croyons. Nous les analysons comme des faits objectifs.
Bienvenue dans une démocratie.
Non, mais les patrons, c'est tous les mêmes, hein. C'est tous des voleurs, en réalité.
Ils font l'argent, hein.
Bah ouais, ils font l'argent. Sur le dos de qui? Sur le dos des travailleurs.
Ça ne prouve rien.
Oui. Simple coïncidence. Une de plus.
Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste.
On finit inévitablement par parler politique.
Inévitablement.
Et je propose cette proposition de cesser immédiatement le travail. Tous!
Pour quel type de civilisation voudriez-vous combattre?
Vraiment? C'est une faiblesse. Disons une civilisation où l'existence de gens comme vous n'aurait pas de sens.
Ces profiteurs qui vous exploitent depuis tellement d'années.
Il n'y a qu'une chose à faire. Les supprimer tous, sans exception.
It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't?
Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala bestia.
Class conscious hip hop.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. What?
A bang-a-lang-a-lang right here, EK crew.
Et du coup, c'est ce bouquin de Léo Matisse, il s'appelle Crise. Il a été écrit en 2012, donc 4 ans après la première crise financière qui a mis Lehman Brothers à la rue. Et ce livre, il est vachement intéressant parce qu'il rappelle un peu des banalités de base qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans tous les discours médiatiques qu'il y a sur la crise et tout ça. Et ce livre, il part du postulat de départ que la crise, c'est pas dû à une mauvaise gestion, à un excès de la finance qui aurait tout déréglé, mais ça part du postulat que le problème, c'est l'argent. Que qu'il soit en monnaie ou bien virtuel, que l'économie, la soi-disant réelle, hein, celle des travailleurs et des entreprises qui créent de la richesse, ou l'économie qui serait virtuelle, celle des banquiers et des finances, et ben tout ça c'est quand même un même rapport, c'est un rapport d'échange monétarisé. Et que finalement, troquer une baguette contre une pièce de 1 euro, ça revient finalement au même que d'investir sur le marché financier. Et que ces deux opérations, elles sont pas plus réelles, pas moins virtuelles, l'une que l'autre, et que toutes les deux, elles sont possibles parce qu'il y a exploitation, parce qu'il y a utilisation du travail des uns pour créer de la plus-value et engraisser les autres, et parce que toutes les activités humaines, elles ont qu'une seule et unique destination, l'échange. Et voilà, c'est un livre d'analyse qui propose aucun débouché pratique, hein, mais qui sert quand même à mieux comprendre comment fonctionne le système capitaliste actuel, mieux le comprendre pour mieux le combattre, pour pas se contenter de se battre pour un retour à une économie régulée, celle des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, mais s'attaquer à la racine, car tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas assez pour tout le monde.
I work all night, I work all day to pay the bill.
La démarche de ce livre consistait à saisir l'occasion de la crise de 2008, à la fois la crise bancaire et financière de 2008, et ensuite ce qu'elle a donné, ce en quoi elle s'est muée, c'est-à-dire la crise de la dette publique depuis environ 2010, crise qui est encore en cours, évidemment. Donc crise qui a occupé l'espace médiatique durant toutes ces années, pour poser la question de l'argent, et tout simplement d'ailleurs en demandant, mais qu'est-ce que c'est que l'argent concrètement aujourd'hui, comment est-ce que c'est créé, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça se fait tout simplement qu'on puisse utiliser des billets de banque ou un compte bancaire pour obtenir des marchandises. Mais au-delà de la question de l'argent, bien sûr, la question de la valeur, donc la valeur des marchandises, qui elle-même conduit à la question d'exploitation, qui elle-même, bien entendu, pose la question du capitalisme comme rapport social et comme mode de production, et surtout comme domination. Donc l'idée, c'est de rentrer en quelque sorte par cet aspect-là des choses pour arriver à une thématique qui est assez commune, qui est tout simplement la thématique de l'exploitation et de la domination dans le monde capitaliste. Il y a bien d'autres points d'entrée possibles pour analyser ce genre de choses. Là, il y avait vraiment une occasion, parce que depuis 4 ans, la question de la crise, c'est pas une petite question, au moins médiatiquement. Moi, ma position, c'est que c'est pas seulement une apparence, cette crise, mais que c'est réellement une crise du rapport social. Mais de toute façon, à la limite, c'est même pas le plus important, parce que le plus important, c'était plutôt de pouvoir utiliser cette chose-là pour parler d'argent, de valeur et d'exploitation. Du coup, la crise elle-même, bien que le livre s'appelle crise, la crise elle-même, enfin la question, la notion même de crise, c'est pas forcément le plus important. C'est un chapitre en fait, et c'est pas l'élément essentiel. Pour moi, l'élément essentiel, c'est de poser la question de l'argent et de la valeur, et de qu'est-ce que ça veut dire, de comment c'est utilisé. On y reviendra. Alors, en écrivant ce livre, il y a un enjeu à tenir ce genre de propos, qui est un enjeu, qui à mon avis, un enjeu de toute théorie. Mais c'est un enjeu par rapport aux luttes depuis quelques années, et évidemment en réaction aux plans d'austérité qui ont été pris dans un certain nombre de pays européens après la crise de la dette publique. Donc il y a un grand nombre de luttes qui se sont développées sur ces questions-là. Et du coup, pour moi, l'enjeu, il est par rapport à ces luttes. D'une part, parce qu'il faut pouvoir se réapproprier quand on est en lutte un certain nombre de choses qui sont normalement complètement inabordables et incompréhensibles, justement quand c'est le discours économique des spécialistes, quand c'est le discours économique des médias. Donc si c'est inabordable et incompréhensible, c'est pas par hasard, évidemment. C'est précisément pour que les gens puissent pas se réapproprier ces questions-là, pour qu'ils puissent pas réfléchir sur ces questions-là. Donc il y a un premier aspect qui est tout simple, qui est d'expliquer un certain nombre de choses, d'essayer d'expliquer, de décortiquer, par exemple, comment est-ce qu'on crée la monnaie actuellement. Et puis un deuxième point qui était aussi de faire exister dans l'espace public, c'est-à-dire avec un livre qui est publié, qui est certes disponible dans les réseaux, enfin distribué dans des réseaux d'infokios, etc., mais aussi il est disponible en librairie, donc existe dans ce qu'on pourrait appeler un espace public. Après, on sait bien que comment ça fonctionne, hein, que c'est pas spécialement notre espace, mais bon voilà, ça me semble important quand même que ça soit là, et donc faire exister dans cet espace des positions qui soient des positions critiques par rapport justement à un certain nombre de points, en particulier critiquer ce qui quand même s'est beaucoup développé ces derniers temps, et il y a un discours qui devient, je trouve, prédominant, mais même à droite, hein, c'est pas seulement un discours de social-démocrate, c'est un discours presque commun maintenant, par exemple en France, qui est de dire que ces crises, elles seraient dues à un excès de la finance, que parce qu'il y a eu des financiers, des banquiers, qui ont été trop peu régulés par l'État, et qu'il y a eu trop de... finalement on leur a trop laissé la bride sur le coup, et ben ils ont fait des conneries, et que c'est ce développement de la finance qui provoque le problème. Alors j'y reviendrai, hein, là-dessus, parce que bien sûr il y a une crise financière, mais ça me semblait important de mettre en avant l'idée que c'est pas seulement une crise de la finance, que c'est une crise du mode de production lui-même en tant que tel, et donc par conséquent ce que ça met en jeu, c'est pas seulement la question de la régulation, je sais pas trop quoi, c'est bien plutôt la question de pourquoi on est exploité, pourquoi on est dominé, et que c'est ça qui finalement se trouve derrière cette histoire de crise financière. Et pareil par rapport au recours à l'État, donc j'y reviendrai un peu après. Alors il y a en termes de contenu, donc voilà, il y a il y a plus ou moins trois parties, enfin ça se voit pas forcément quand on le lit, mais ça commence d'abord donc sur la question de la crise, puisque c'est le point de départ, qui est évoqué assez rapidement, mais en fait je pense en plus évoqué d'une manière qui permet pas vraiment de comprendre encore les mécanismes qui sont en jeu. Ensuite ça passe à la question de l'argent, en se demandant donc, en explicitant les mécanismes contemporains de la création monétaire, mais en comprenant aussi que c'est pas parce qu'on sait comment s'est créé l'argent qu'on a compris ce que c'était. Donc ensuite, j'essaye de voir rapidement les différentes explications de l'existence de l'argent qui ont pu être fournies pour arriver, évidemment c'est un peu rhétorique, hein, j'étais de ce point de vue-là dès le départ, mais enfin bon, pour finir par arriver et dire que il me semble que c'est le point de vue de Marx qui est le seul qui permet réellement de saisir ce qu'on peut entendre par, enfin, comprendre ce que c'est que l'argent. Après, là-dessus, j'ajoute qu'il y a un petit problème qui est qu'en fait, dans Marx, l'argent, c'est de l'argent marchandise et qu'actuellement, c'est plus de l'argent marchandise, c'est de l'argent dette. Bon, mais à part ça, je dis, ben voilà, c'est quand même dans Marx qu'on trouve l'explication la plus satisfaisante. Et du coup, je détaille un petit peu le point de vue de Marx en parlant de la valeur, d'une manière qui n'est pas exactement d'ailleurs canonique, qui n'est pas la même manière de présenter les choses que c'est fait dans le chapitre 1 du Capital. Parce qu'il me semblait justement que dans la logique que j'avais pris moi-même de présentation des choses, il fallait les présenter un peu différemment. Et puis ensuite, une fois cette présentation faite, et une fois aussi compris qu'on peut interpréter grâce à Marx l'évolution de l'argent, et savoir pourquoi on est passé de l'argent marchandise à l'argent dette, une fois qu'on a vu ça, donc arriver finalement aux deux derniers chapitres, qui sont les chapitres un petit peu plus généraux, sur la question de la valeur en tant que telle, comme mode de domination. Voilà, donc ça c'est pour le plan. Donc du coup la première partie, ça serait toute celle qui précède en quelque sorte la présentation de la valeur en tant que telle, donc celle où il y a une interrogation sur qu'est-ce que c'est que tout ça. La deuxième partie, ça serait celle qui résumerait d'une manière un petit peu différente ce que sont les positions de Marx en les actualisant, parce qu'à mon avis, évidemment, il ne s'agit pas de répéter ce qui a été dit, mais il s'agit de prendre, au fond, des éléments d'analyse, ou peut-être même une méthode d'analyse pour l'appliquer à aujourd'hui. Et là, effectivement, il sera question à nouveau de la crise, comme au début, mais avec un angle différent, et qui, à mon avis, permet mieux de comprendre ce qui est en jeu. Et puis, les deux derniers chapitres peuvent être lus un peu à part, parce qu'ils vont être une réflexion un petit peu plus générale sur des choses qui sont juste esquissées, parce que le livre n'a pas le temps d'aller au-delà, hein, sur la valeur en tant que telle, sur qu'est-ce que c'est que comprendre la valeur, à quoi ça mène, etc. À part ça, le livre, il y a aussi des choses qu'il ne dit pas. C'est un livre d'analyse critique, donc en tant que tel, faire une analyse critique, c'est ce qui est soutenu à la fin du bouquin, c'est quelque chose qui est déjà en prise avec une certaine réalité, qui est déjà presque, qui a une visée pratique en tout cas, mais justement, par contre, je ne vais pas jusqu'à dire ce qui... à mes yeux, serait une manière de sortir, un débouché en quelque sorte de cette position critique. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas tout mélanger. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, j'ai pas des idées là-dessus. Il y a aussi une revue que vous avez peut-être vue là-bas qui s'appelle SIC, qui est une revue sur la communisation. Donc voilà, ça c'est l'aspect justement qui serait l'aspect débouché pratique. Mais dans ce livre, je n'ai pas voulu mettre, tout simplement pour que le livre garde son sujet, qui est vraiment la valeur, et l'argent, et l'exploitation, et qui ne déborde pas sur autre chose dans ce cadre-là. Voilà, donc ensuite, simplement sur en termes de contenu, pour reprendre quelques points, mais ça ne sera pas tout, évidemment, hein, sur la question de la finance, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il s'agit de dire que c'est pas que la crise actuelle, ce n'est pas une question de finance, ce n'est pas une question de crise financière, c'est pas un problème finalement seulement de virtualité de la finance par rapport à l'économie productive qui serait bonne. À part ça, c'est vrai que la crise a une forme financière, c'est vrai aussi qu'il y a un surdéveloppement des instruments financiers depuis les années 70. Donc la thèse qui est soutenue dans ce livre, c'est que ce surdéveloppement des instruments financiers dans ces années-là était nécessaire à ce moment-là au capitalisme qui connaissait déjà une forme de crise dans les années 70, que donc il a fallu effectivement ce surdéveloppement de la finance, et que la crise financière actuelle est que l'expression du blocage nouveau qui réapparaît dans les modalités qui ont été prises à l'époque pour dépasser le blocage des années 70. En fait, il y a une conception, donc il y a une conception classique, hein, là, du fonctionnement du capitalisme comme quelque chose qui tout le temps dans une forme de contradiction, qui doit sans cesse dépasser cette contradiction, et que par moment des blocages apparaissent. Ces blocages, prennent la forme de crise. Et que ces blocages-là sont dépassés par une nouvelle modalité, mais qui porte en elle-même, en quelque sorte, son futur blocage. Et donc, tout simplement, la forme financière de la crise actuelle est due au fait que le dépassement de la crise antérieure était financière, voilà, pour le dire simplement. Voilà, donc ça, c'est un point qui est un petit peu détaillé là-dedans. Donc, ce qui, encore une fois, une prise de position, parce que du coup, ça, évidemment, va à l'encontre des idées sur... tout le problème vient des banques, vient de la manière dont elles fonctionnent. Il faudrait, il y a un livre qui s'appelle L'argent d'être, par exemple, un film de Paul Grignon, où on a le sentiment finalement que c'est parce que l'argent est de l'argent d'être qu'il y a un problème et que si on fondait l'argent sur autre chose, ça irait mieux. Donc là, explicitement, je dis non, ça c'est de toute façon pas possible. Je pense aux mouvements qui s'en prennent aux banques, qui disent, j'ai déjà entendu ça, il faudrait des petites banques ou des banques communautaires ou des banques autogérées, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est des positions qui sont attaquées par cette théorie-là. Voilà, alors il y a aussi une critique de l'État importante. L'État, donc, là encore, on voit bien, hein, on sait qu'il y a une sorte, dans le discours... de gauche, et même pas que de gauche d'ailleurs, une sorte d'appel à l'État pour réguler le capitalisme, pour faire un contrepoids en quelque sorte au libéralisme, je ne sais pas trop quoi. Donc ce point de vue-là aussi attaqué, évidemment d'abord en rappelant très classiquement que l'État est un instrument de domination au service de la classe capitaliste, donc il peut servir que à ça, il ne peut pas servir à autre chose. Bon, ça c'est un point de vue qui est assez commun, hein, mais que je rappelle évidemment, que je développe. Et puis ensuite, aussi, plus spécifiquement, parce que les gens qui appellent à l'État en appellent aussi à une sorte de retour souvent à la période d'avant les années 70, la période où il y avait un welfare state, enfin bon, le welfare state existe toujours, mais en tout cas la période où ça s'est développé, hein, c'est-à-dire une sécurité sociale, etc., et de dire, ce qu'il faudrait, c'est au fond renforcer le rôle de l'État pour conserver ça. Hein. Et du coup, j'explique que si cette chose-là s'est développée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, une certaine redistribution, avec beaucoup de guillemets, des richesses, avec encore plus de guillemets, parce que c'est des richesses capitalistes, mais bon, bref, une certaine redistribution, en tout cas, de ce qui était produit, si ça a eu lieu dans ces années-là, c'est pour une raison spécifique, pour un état spécifique du capitalisme. Cet état spécifique du capitalisme, il ne peut pas revenir, et donc c'est une aberration que d'espérer revoir l'État, rejouer ce rôle-là qu'il a joué à ce moment-là. Et puis je rappelle aussi au passage qu'à l'époque où ça existait, donc effectivement, dans ces périodes de croissance des années 50, 60, etc., cette croissance, elle concernait les pays occidentaux, les pays du premier monde, et entre-temps, dans le même temps, il y avait des rapports coloniaux ou post-coloniaux avec une bonne partie du reste de la planète. Et que aussi, la relative prospérité des centres s'expliquait aussi par ces rapports-là. Hein. Donc vouloir retourner du coup à ce rôle-là de l'État, en général les gens ne le précisent pas, mais est-ce que ça veut dire vouloir retourner aussi... un état géopolitique de rapports comme ceux qui étaient à ce moment-là tout à fait prégnants. Ça, c'est une question. Et puis, dernière chose sur la valeur en général. Donc, ça c'est pas mal développé dans le bouquin, évidemment. Ce qui est soutenu quand même à un moment donné, c'est de dire que la valeur, elle est totalement au service de la domination. Et puis aussi, alors ça c'est important, parce que là, même dans ma présentation, quand j'ai parlé de la finance, je parlais de blocage du capitalisme, on avait un peu l'impression que bon, le capitalisme, c'est... quelque chose qui existe comme ça par lui-même et en dehors, du rapport social ou des gens qu'il compose. Alors non, pas du tout. L'économie ou la valeur, ça n'existe pas en soi. C'est des productions du rapport social. C'est parce qu'il y a de la domination, parce qu'il y a domination, que ces formes-là existent et elles sont au service de ces dominations. Donc autrement dit, l'économie, j'appelle ça l'objectivation du rapport social, c'est-à-dire c'est des formes qui sont prises, qui n'existent que parce que il y a exploitation capitaliste et domination. Et ces formes-là, donc elles n'ont strictement rien d'objectif en soi, elles sont objectivées, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elles se mettent à exister à cause du capitalisme, mais des formes de domination, et c'est des formes qui doivent être donc attaquées en tant que telles. Des formes abstraites, on pourrait revenir là-dessus, mais voilà, c'est des créations du capitalisme, c'est pas l'économie, c'est pas quelque chose qui nous domine. Donc de ce point de vue-là, le marxisme qui est développé dans ce livre, je pense que vous l'avez compris, de toute façon, c'est pas le marxisme, évidemment, léniniste ou post-léniniste de développement des forces productives, etc. C'est le marxisme critique de la valeur et critique des formes qui sont des formes qui servent à la domination. Voilà, puis alors donc là-dessus, je vais juste terminer en disant que il y a toute cette histoire de je reprends toute cette histoire donc du welfare state, sa mise en place dans des années de lendemain de la Seconde Guerre mondiale aux années 70, ensuite la crise des années 70, la financiarisation dont j'ai parlé, la restructuration qui a existé à ce moment-là, l'attaque de la force de la valeur de la force de travail et la nouvelle crise entre guillemets, enfin la nouvelle crise qui apparaît en 2008 et les plans d'austérité. Donc tout ça c'est remis en avant.
Tu entends par valeur, comment tu définis la valeur dans le système capitaliste?
Justement, là, j'en fais une présentation qui n'est pas exactement la présentation canonique de Marx. Je la rappelle quand même, justement, celle de Marx, hein, c'est-à-dire le début du Capital, le livre Le Capital. Alors, il dit d'abord, il y a valeur d'usage et valeur d'échange, et c'est deux choses différentes, et en fait, l'une et l'autre sont indépendantes, en fait. Et justement, c'est assez intéressant parce que il y a d'autres théories économiques sur la valeur qui avaient tendance à dire, c'est une seule et même chose. Un objet vaut parce que j'en ai besoin, voilà. Hein. Théorie d'utilité marginale, etc., c'est ça. Marx, il dit non, en fait, c'est deux choses différentes, et l'usage, c'est. C'est quelque chose de social, hein, en plus, voilà, c'est...
Rappeler valeur d'usage.
Ouais, donc la valeur d'usage, c'est tout simplement à quoi sert une marchandise, un objet, pourquoi il est utilisé.
Satisfaire
un besoin. Alors un besoin qui, en fait, est purement social, et qui n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire que, je crois que Marx dit quelque part que la faim est la faim, mais on ne mange pas de la même manière... au néolithique et maintenant, enfin, je veux dire, et donc on ne le satisfait pas de la même manière, ce besoin-là, par exemple, et puis j'en sais rien, moi, on parle souvent des faux besoins, on dit est-ce qu'on a besoin d'une voiture surpuissante ou d'une télévision géante, etc. Bah oui, dans ce monde dans lequel on vit, c'est des besoins qui sont réels. Après, en fait, ils sont réels, ils existent essentiellement parce qu'il faut produire les marchandises et les écouler, mais néanmoins, c'est des besoins qui existent dans cette société. Et qui sont là. Donc voilà, le truc, c'est ça la valeur d'usage. Donc peu importe le jugement qu'on a sur l'usage, en fait, c'est pas la question. C'est, et puis la valeur d'échange, c'est tout simplement ce qui, effectivement, l'équivalent monétaire, sert à l'échange. Et Marx dit, comment est-ce qu'on peut voir le point commun entre toutes ces choses qui s'échangent, alors qu'elles ont, dans leur essence, aucun rapport. Par exemple, je sais pas moi, effectivement, un canapé, tant de canapés valent une maison, ou tant de chewing-gum valent un avion. Alors évidemment, ça fait beaucoup de chewing-gum, sans doute. Mais néanmoins, c'est possible de voir une équivalence entre des chewing-gum et un avion. Et en même temps, c'est quoi le rapport entre des chewing-gum et un avion? Enfin, je veux dire, il n'y en a aucun, c'est en termes... Donc comment ça se fait qu'il y a une équivalence entre ces choses-là? Et il reprend d'ailleurs Aristote, je crois, Marx, et puis il dit, Aristote s'était déjà posé la question, et Aristote s'était dit, rien, il n'y a aucun rapport. C'est juste qu'on fait des équivalences dans notre tête, parce que c'est pour le besoin, comme ça. Mais il n'y a aucun rapport entre l'essence de ces choses. Et là, Marx dit, si, il y a un rapport, en fait, et ce rapport, c'est la quantité de travail qui a été nécessaire pour obtenir ces différents objets. Et qu'effectivement, c'est ça qui permet d'établir des équivalences. Voilà, et donc la valeur, du coup, c'est la valeur qui est fournie, c'est le travail. Enfin, donc les termes exacts utilisés par Marx, parce qu'il utilise un vocabulaire un peu philosophique, en gros, donc c'est le travail et la substance de la valeur, et donc c'est ça qui en quelque sorte, lui donne à la marchandise ce qu'elle vaut. Et après, il y a une forme de cette valeur, et la forme, c'est l'échange, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer cette valeur en temps de travail, en fait, c'est impossible. Donc c'est par le biais de l'échange, par la médiation de l'échange, que la valeur temps de travail, la valeur travail, trouve sa forme. Elle ne peut pas trouver sa forme directement sous l'aspect de l'évaluation du temps de travail. Donc c'est le travail socialement nécessaire. Voilà. Ça, c'est l'explication canonique. Donc ce travail, du coup, il est particulier parce qu'il est commun. En fait, il faut évidemment, les travaux, pourtant, ils sont complètement différents. Ils sont exactement comme les marchandises sont différentes. Les travaux qui mènent à ces marchandises, eux aussi, sont différents. Donc il faut aussi les ramener à une substance commune. Et donc, Marx développe l'idée donc, d'un travail abstrait qui est commun à tous les travaux, en quelque sorte. Et on ne réalise jamais que des travaux concrets pour produire des marchandises concrètes et fabriquer des produits concrets, mais socialement, c'est une matérialité sociale, en quelque sorte, c'est quelque chose de social. Socialement, et c'est en fait du travail abstrait qui permet de produire de la valeur. Voilà, ça c'est l'explication canonique de Marx. Moi, j'en donne une un petit peu différente, parce que je repars justement de la notion d'échange et de la circulation, pour rendre cette explication peut-être un peu plus claire et aussi plus adéquate à l'idée de la circulation infinie qui est déjà celle de l'argent-dette. Et donc, du coup, je donne une explication qui est un petit peu différente, mais qui revient quand même au même. Cette valeur, elle n'existe pas en tant que telle. C'est une création d'un système donné, qui en même temps crée ce système, hein, je suis d'accord, c'est vrai. De même que le travail, d'ailleurs. Hein. Le travail non plus n'existe pas en tant que tel. Alors, encore moins le travail abstrait, mais même le travail, même la notion de travail, c'est pareil, quelque part, bah, finalement, pour arriver à un moment donné à dissocier, même dans la pensée, une activité spécifique, à dissocier la notion d'activité, au fond, spécifique, et à parler de l'activité en tant que telle, du travail, il faut déjà avoir une société qui a une certaine évolution. Enfin, je m'explique. A priori, par exemple, je ne sais pas moi, couper un arbre et chasser un poisson, c'est deux activités différentes. Et a priori, il n'y a pas de raison de les mettre ensemble sous un même concept. Hein, c'est-à-dire qu'on peut supposer que justement, quand il n'y a pas ce développement quasiment industriel de la production, on n'arrive pas encore à concevoir la notion de travail comme activité productive spécifique. On ne conçoit que l'activité en tant que telle, l'activité de faire ci, de faire ça, et c'est pas pareil de faire ci que de faire ça. Mais dans le capitalisme, justement parce qu'il y a valeur et travail abstrait, on peut concevoir cette notion donc, de manière abstraite, comme conceptuelle, le fait de travailler comme quelque chose qui est découplé du travail spécifique qui est fait, de l'activité spécifique qui est fait. Et donc le travail, ça n'existe pas de tout temps, c'est pas un truc, c'est quelque chose de socialement déterminé. Alors, c'est plus complexe de dire que c'est créé par le capitalisme, parce que c'est vrai qu'on peut aussi, comme la valeur d'ailleurs, trouver des éléments avant le capitalisme. Mais en tout cas, pour arriver au stade dans lequel il est maintenant, il faut le capitalisme comme mode de production.
Sur un point, à un moment, tu parlais de la différence entre, sur la théorie de Marx, la différence entre argent-dette, enfin argent-marchandise dans la théorie de Marx. Et en fait, aujourd'hui, on serait à l'argent-dette. Déjà, est-ce que c'est possible d'expliquer un tout petit peu la différence ?
Qu'est-ce que j'entends par argent-dette ? Argent-signe aussi, j'utilise le terme argent-marchandise. Donc, à l'époque de Marx, au 19e siècle, il y avait ce qu'on appelait l'étalon or, en fait. En tout cas, enfin, jusqu'en 1870, le bimétallisme, et après, essentiellement, l'étalon or. Donc la monnaie, même quand c'était une monnaie de billets de banque, elle était fondée sur une marchandise particulière, qui était un métal précieux. Métal précieux, c'est une marchandise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut s'acheter, se vendre, qui a un usage, même si c'est un usage de faire des bijoux, je ne sais pas trop quoi, hein, et puis qui a aussi très vite l'usage de représenter de la valeur, mais qui peut demander un certain travail pour être obtenu. Hein. Donc en quelque sorte, il possède, si on reprend le principe de la valeur travail, il possède en lui-même, en quelque sorte, le principe de sa valeur. Et donc, si on a un billet de banque, au 19e siècle, c'était quelque chose de très courant, les billets de banque étaient convertibles en or, c'est-à-dire qu'on pouvait effectivement aller à la banque et obtenir, en échange du billet, une certaine quantité d'or. Alors l'argent signe, par contre, c'est quand le billet ne correspond pas à une marchandise, mais qu'il ne vaut en fait que parce que il y a écrit dessus que ça vaut tant. Et ça, c'est pas quelque chose qui n'existait pas au 19e siècle. Ça existait par exemple, mettons, quand il y avait des suspensions de la convertibilité, ce qu'on appelait. Ça existait, je sais pas, en France, par exemple, c'est à quoi correspondait toujours à des périodes de guerre, hein, des périodes de troubles, choses comme ça. Voilà. Donc c'était toujours des périodes très restreintes. Et là, ça pouvait exister, mais... alors Marx le prend en compte, mais il dit, mais ça, ça n'existe que dans un espace donné. S'il y a circulation, en fait, si la circulation de la monnaie continue à circuler, ça peut fonctionner. Mais c'est sur un temps limité, un espace limité. Il faut toujours revenir à un moment ou à un autre à la monnaie fondée sur la marchandise. Et puis, pareil pour ce qu'on appelle l'argent dette. Donc l'argent dette, c'est quelque chose qui est très ancien. C'est, ça existe avant le capitalisme comme mode de production. Hein, c'est, la lettre de change, c'est déjà ça, quasiment. Bon, c'est tout simplement une reconnaissance de dette. Voilà, quelqu'un doit quelque chose à un commerçant, en général doit de l'argent à un autre commerçant, donc il lui fait un papier. Et puis ce papier bah, peut être utilisé pour payer. Parce que si A doit de l'argent à B et que B veut ensuite acheter quelque chose à C, eh bien B peut donner à C la reconnaissance de dette, c'est comme s'il lui donnait de l'argent, puisque l'autre lui doit cet argent. Donc voilà, donc là j'ai utilisé un papier qui est une reconnaissance de dette comme moyen de paiement. Voilà. Donc ça aussi, ça existait tout à fait à l'époque de Marx. Mais pareil, Marx disait, bon, ça, ça existe, évidemment, ça, voilà, c'était quelque chose qui était courant. Et d'une certaine manière, le billet de banque, c'est un peu ça. D'une certaine manière. Parce que finalement, la banque qui a de l'or dans ses coffres et qui émet un billet convertible, bah, c'est un peu comme si elle avait une dette. Donc la personne qui possède un billet de banque A et qui va acheter quelque chose avec ce billet de banque à la personne B, lui donne ce billet de banque. Et d'une certaine manière, la banque, elle a une dette envers A par son billet, c'est-à-dire que si A va au guichet de la banque, il aura une certaine somme en métal, et donc c'est cette dette que A donne à B, et que B peut aussi utiliser donc en allant à la banque. Donc cet argent-dette existe hein, à l'époque de Marx, mais c'est pareil pour Marx, c'est quelque chose qui voilà, doit, à un moment ou à un autre, refluer vers la vraie monnaie. La vraie monnaie qui est la monnaie marchandise. C'est-à-dire que oui, effectivement, il peut y avoir des échanges de billets de banque, il peut y avoir même de la spéculation, il peut y avoir des agioteurs, comme il dit, etc., etc. Mais à un moment ou à un autre, il y a ce qu'on appelle le reflux de la monnaie. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, il faut revenir à la vraie monnaie qui est dans les coffres de la banque. Et si en quelque sorte, on fait trop de dettes, du coup, ces dettes, on ne peut pas les rembourser, puisqu'il faut avoir de la vraie monnaie pour les rembourser. Donc, cet argent a fini par s'effondrer. Et il y avait des... Il y avait des antécédents, en fait, historiques à l'époque. Hein. Il y avait les assignats, par exemple, sur la Révolution française, des choses comme ça, qui montraient que, bon, il fallait faire attention avec cette monnaie dette qui pouvait s'effondrer très facilement. Donc, le 19e siècle tenait beaucoup alors. Hein, et Marx était un homme de son siècle. Et donc, il pensait, lui aussi, que c'était nécessaire, du coup, à la monnaie d'avoir ça. Alors, le 20e siècle a montré que cette chose-là, elle a complètement changé. Ça a été progressif. Hein, ça ne s'est pas fait en une fois. Ça a été entre la Première Guerre mondiale et, en gros, les années 70. Mais petit à petit, on s'est passé de l'or, et l'argent, maintenant, c'est que de la dette, et essentiellement, justement, de la dette des États, pas seulement, hein, mais essentiellement de la dette des États. Donc, du coup, c'est pour ça que les États sont aussi importants maintenant dans le fonctionnement monétaire international, parce que, finalement, c'est un peu eux les garants de la monnaie. C'est leur dette à eux, les garants de la monnaie. C'est les obligations d'État qui sont les garants les plus essentiels de la monnaie. Bon, je ne rentre pas dans le détail là-dessus, parce que c'est assez compliqué, mais bon, voilà. Et maintenant, on peut dire qu'effectivement, la monnaie est monnaie dette, et en même temps, elle est signe, c'est-à-dire qu'elle doit sans cesse circuler, elle doit aussi sans cesse s'accroître, et c'est parce qu'elle peut s'accroître. Pourquoi il peut y avoir accroissement? Parce que de toute façon, la valeur et le capitalisme en tant que tel imposent un accroissement continu de la production, et que c'est cet accroissement continu de la production qui permet de penser à la possibilité de rembourser la dette de l'argent dette, et donc c'est pour ça que tout ça peut fonctionner, parce que ça circule sans cesse, et parce que ça s'accroît sans cesse. Et donc le fait que la valeur en tant que telle doit circuler sans cesse et s'accroître sans cesse, fait que du coup la monnaie elle-même peut agir ainsi, et parce qu'elle peut être ainsi, la monnaie, du coup elle peut être à la fois signe et dette, et plus marchandise. Oh, moi, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une décision de l'État qui dit « bon, bah, maintenant, voilà, cet argent, ça vaut tant ». Décision purement légale, en fait. Hein. Justement, pour le coup, l'État qui a tenté d'imposer une valeur faciale à une monnaie sans que ça réussisse, bah, c'est l'État révolutionnaire français, hein, c'est les assignats. Donc en fait, la raison pour laquelle l'État peut imposer quelque chose, c'est parce que l'État... il a les moyens de ponctionner cette valeur qui va être produite. Et il a les moyens de la ponctionner par la fiscalité, etc., par le fait tout simplement qu'il a un État, qu'il a une puissance qui peut tout prendre, qui peut tout simplement... Et donc, en fait, ce qui fait que l'État, maintenant, est un garant de la monnaie, de la valeur de la monnaie, c'est tout simplement sa puissance coercitive. C'est son armée, en quelque sorte. Bah, c'est sa capacité à la ponctionner, cette valeur. Donc il y a un lien étroit entre le capitalisme qui se développe actuellement, enfin qui continue à se développer, et l'État en tant que force de coercition, l'État en tant que flic et armée. Quoi. Je crois que ça, c'est un point, bon, j'insiste pas plus que ça dans le bouquin, mais c'est un point qui me semble assez important à dire. C'est ça qui permet, en fait, à la monnaie de valoir actuellement. Et la deuxième chose, qui me semble aussi importante, c'est de bien rappeler que c'est vrai que c'est une anticipation de valeur et que effectivement cette dette c'est quelque chose qui n'a pas encore été produit. Mais c'est pas parce que la monnaie est ça que le capitalisme est déséquilibré. C'est vraiment le point de vue inverse. Le capitalisme est une dynamique déséquilibrée. C'est quelque chose qui doit forcément, c'est ce que j'essaye de développer sur la valeur, qui doit forcément donc être dans un accroissement, et un accroissement qui est contradictoire et qui parvient les aspects, mais un accroissement continu. Et c'est parce que la valeur est dans un accroissement continu que précisément la monnaie peut n'être que dette. Hein, c'est dans ce sens-là que ça marche, et c'est justement pour qu'il puisse y avoir cet accroissement continu, et à certains égards complètement délirant, qu'il a fallu effectivement à un moment donné se passer tout simplement de la monnaie marchandise pour pouvoir continuer l'accroissement productif infini, hein, la croissance infinie qu'est, qu'est le capitalisme. Et le dernier point, c'est que cette croissance infinie, entre guillemets, folle, elle n'est pas folle évidemment en tant que telle. Elle est folle si on regarde les dégâts sur la planète et si on regarde tout ce que ça fait concrètement. Mais bien entendu, il y a une raison quand même. Il y a des gens qui sont produits comme dominants dans ce monde-là. Et ces gens qui sont produits comme dominants, la classe capitaliste, bah, même si à long terme ça ruine la planète, c'est pour défendre leur propre domination de maintenant qu'ils font ça et qu'ils continuent à faire ça. C'est-à-dire qu'ils continuent à agir suivant les lois de la valeur parce qu'elle leur garantit la position dominante. Donc il y a là-dessus, je ne sais pas si je m'écarte ou pas de la théorie de la valeur en disant ça, parce que moi j'insiste énormément là-dessus, sur le fait qu'il y a une classe capitaliste et que c'est lutte de classe que de se passer de détruire la valeur et l'État et la marchandise.
Revenir un petit peu sur l'argent de dette, qu'est-ce que fondamentalement ça change et quel rapport on peut voir avec la crise actuelle, et enfin actuelle qui a commencé il y a 40 ans et qui s'intensifie depuis 2008.
Bah, moi, je pense que ça change fondamentalement rien, au sens où, précisément, ça n'a été possible que parce que le capitalisme fonctionne déjà comme ça. D'un autre côté, ça change quand même des choses, parce que, me semble-t-il, ça le rend peut-être quand même plus fragile, globalement. En tout cas, maintenant, on a un système... un monde financier intégré, hein, au niveau mondial, une circulation de capitaux intégrée mondialement, et donc effectivement quand il y a des doutes sur la possibilité de rembourser les dettes qui ont été créées, ça fragilise vachement ce système-là. Donc c'est peut-être ça la nouveauté. Alors pour rappeler, je vais dire tout ça. Alors ouais, genre vraiment, alors là vraiment de manière la plus simple possible. Enfin montrer, voilà, quand un capitaliste investit son capital dans la production, il va évidemment investir ce capital pour que ce capital s'accroisse. Hein, ce que Marx appelle l'accumulation, c'est-à-dire que bon bah voilà, on investit un capital, avec ce capital est produit un certain nombre de marchandises qui donc ont une valeur en termes de valeur travail. Le capital initial est inférieur au capital escompté ensuite lorsque ces marchandises auront été vendues et auront circulé. Pourquoi ? Parce que entre temps, il y a eu justement un processus productif, c'est-à-dire l'incorporation de travail fourni par des prolétaires. Ces prolétaires étant rémunérés de manière inférieure au travail qu'ils apportent, hein, puisque c'est ce que Marx appelle la plus-value ou la sur-valeur, puisque justement la valeur de la force de travail, c'est la manière dont elle est rémunérée par rapport à ce qu'elle peut fournir en tant que valeur renouvelée dans le travail. Bon, voilà, ça c'est la base de l'idée de l'exploitation selon Marx. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que en tout cas, forcément, à partir du moment où il y a processus productif dans le capitalisme, il y a accroissement de valeur. C'est pour ça que c'est fait. Alors évidemment, ça peut foirer. Hein, il peut y avoir, je sais pas, des moments où les marchandises se vendent pas, etc., etc. Certes, mais globalement, l'objet même du capitalisme, c'est ça. Donc, du coup, il y a toujours des capitaux qui arrivent à se valoriser. Hein. Et puis, éventuellement, d'ailleurs, c'est le jeu de la concurrence, parce que les règles de la valeur, elles se manifestent pour le capitalisme particulier sous la forme de la concurrence. Donc, cette forme-là fait que, effectivement, les capitaux qui ne se valorisent pas, bah, ils périclitent. Et puis, c'est là où ça se valorise, réellement, où ça fonctionne, que la valeur s'accroît. Donc, du coup, il y a toujours un accroissement de valeur. Or, dans cet accroissement de valeur, une partie de cette valeur, donc une partie de cette survaleur, ne revient pas au capitaliste, mais elle est en fait donnée à d'autres gens. Elle est partagée, en fait. Elle est partagée selon des règles super complexes, et elle est partagée avec des services nécessaires au capitalisme, même s'ils ne sont pas directement productifs. Par exemple, ça peut être la ponction, justement, de l'État pour assurer un certain nombre de services de reproduction de la force de travail, etc., etc. La rémunération du capital proprement financier. C'est-à-dire qu'effectivement, une frange de cette survaleur peut servir à être donnée à du capital qui, lui, n'est resté que financier, qui n'est pas venu s'investir directement, mais qui existe sous la forme, qui circule sous la forme de la finance. Et donc, du coup, à partir du moment où il y a ça, il est possible, donc, puisqu'il doit y avoir de toute façon un accroissement de cette valeur, il est possible, effectivement, que la contrepartie de la monnaie, ça soit plus une marchandise, mais ça soit tout simplement cette valeur future qu'on va créer. Et c'est ça qui va servir, effectivement, puisque je rappelle que les États peuvent ponctionner donc cette valeur, les fameux faux frais, voilà. Donc du coup, cette survaleur, donc du coup, ces États vont dire, ben moi, je vais donner effectivement une garantie, quelque chose qui est une dette, je la rembourserai. Et comment je la rembourserai? Ben, je la rembourserai avec la valeur qui sera produite par ce système-là bientôt. Voilà. Et que ce système-là, ça fonctionne tant que ça circule, et puis tant qu'on pense que la dette peut être remboursée. Après, il y a des moments où ça coince, ça peut prendre des formes particulières. Tout à l'heure, tu as parlé des subprimes, qui était concrètement la forme que ça a pris la crise financière, enfin la crise d'abord des subprimes, puis la crise bancaire aux États-Unis en 2008. Mais voilà, après, quelles que soient les formes que ça prend, qui sont un peu historiques et accidentelles, la base, le fondement, le raisonnement de base, c'est celui-là. C'est que tant qu'on pense que ça peut être remboursé, ben, ça peut continuer. Hein. Mais comme le capitalisme, de toute façon, est dans un accroissement continuel, une dynamique de production qui doit tout le temps s'élargir pour exister, bah, du coup, ça rend possible cette argent-dette comme anticipation de valeur future, de valeur à produire.
Le travail, c'est quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire que d'une part, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait quand on travaille? On produit un bien utile, mais on produit une valeur. Quand un bien est produit, ce bien, il est deux choses. Il a une utilité et il a une valeur capitalisable d'autre part. Avoir tout le temps ces deux éléments, eh bien, on se rappelle que le système capitaliste ne fonctionne que parce que dans le travail, il ne voit que ce que ça peut rapporter comme valeur, et donc que dans la marchandise, il ne voit que la valeur capitalisable. Et en cela, effectivement, ce qui est le bien utile et ce qui est encore le bien-être des gens, le capitalisme, non, n'a rien à faire. C'est uniquement, comme tu dis, un accroissement infini. Sauf que cet accroissement infini, il ne sera pas infini. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié le bouquin, parce qu'en fait, tu as rappelé la notion de la crise. Eh bien, il est clair que le système tel qu'il est, il ne peut justement pas aller jusqu'au bout. La crise, elle est en fait insoluble. Pourquoi? Pour une raison fort simple. C'est-à-dire que ce qui intéresse le capitalisme, dans le travail et dans la marchandise, c'est la valeur capitalisable. Or, effectivement, ce qui se passe, c'est que pour que la valeur capitalisable soit toujours plus grande, il faut que la productivité soit plus grande. La productivité soit plus grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même travailleur fasse plus de marchandises. Seulement, le problème, c'est que c'est le travailleur qui met la valeur. Ça veut dire que s'il y a plus de marchandises faites par un travailleur, il y a moins de valeur dans chaque marchandise. C'est-à-dire que le processus est qu'il y aura de plus en plus de marchandises qui, pour que la valeur aille dans les poches des capitalistes, soient vendues le plus. Or, il se trouve que parce qu'on a besoin de moins en moins de travailleurs, on en met de plus en plus au chômage. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans un paradoxe, à savoir qu'on fait de plus en plus de marchandises qu'il est nécessaire de réaliser pour avoir la valeur, et en même temps, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Et ça, en plus, on pille les ressources naturelles, on pille les ressources humaines, parce que, et tu as raison de le dire, le capitalisme ne voit que les choses à court terme. Après moi, le déluge. Ce qu'on veut, c'est un maximum de profit maintenant, et demain, on s'en fout. Et quand la gauche dit, ce qu'il faut, c'est un travail qui soit bien rémunéré, une économie qui soit juste, eh bien, elle s'appuie sur un mythe. Ça n'est pas possible. Le capitalisme ne peut pas être équilibré, ne peut pas être juste. C'est forcément quelque chose de déséquilibré, de dynamique, et qui va forcément dans le mur. Et là où, effectivement, je pense que ton livre le rappelle, on ne peut pas faire autre chose qu'aller dans le mur si on ne change pas fondamentalement les bases du système.
Un monde complexe de tours fièrement dressées, de conglomérats d'usines et d'ateliers, de cargos sur toutes les mers et de commerce international perpétuel s'effondrera. Tout débutera par exemple dans un bureau anonyme au 5e étage d'un immeuble en Chine, mais qui pourrait tout aussi bien se situer à Singapour, ou à New York, Londres, Francfort, voire à Sao Paulo. Là, quelques responsables catastrophés découvriront l'ampleur des pertes que leur banque devra à un employé indélicat, à des placements hasardeux ou à des produits si sophistiqués qu'on aura oublié d'inventer l'outil mathématique qui permettrait d'en mesurer la rentabilité. Les choses pourraient en rester là. Cela ne ferait qu'une faille de plus, créatrice d'un déficit qu'un État habitué à la règle de privatisation des profits et socialisation des pertes s'empresserait d'éponger. Oui, mais voilà, ce jour-là, à cette faillite retentissante, s'ajoutera une foule de petits événements qui, chacun pris isolément, seraient certainement sans grandes conséquences. Des remous dans les bourses asiatiques, des crédits interbancaires en chute libre, une crise de liquidité, des cours mondiaux de matières stratégiques en hausse exponentielle. Ce jour-là, tous ces événements structurels ou conjoncturels se lieront soudain dans ce nœud commun qui les étranglera tous, une véritable crise de la valeur. Un jour, un monde complexe de marchés mondiaux interconnectés et de capitalisme triomphant s'effondrera. Le problème n'est pas de savoir si cela aura lieu, ni même quand, mais bien plutôt qu'arrivera-t-il après? Cette question n'est pas anodine. On ne peut certes pas y répondre avant que cet événement gigantesque ait lieu. Mais si la réponse n'est pas d'actualité, la question l'est certainement. Catastrophe, anéantissement ou révolution? De ce que nous faisons aujourd'hui dépend ce que nous serons capables de faire demain. C'est la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, on avait envie de repasser un petit bout de montage. C'est la fin d'un film qu'on a déjà passé, repassé sur une des chaînes. Ce film s'appelle Coup pour coup.
Pourtant, tu as été obligé de céder. Agnès et Colette resteront parmi nous. Dans les ateliers, ce ne sera plus comme avant. Nous aurons notre mot à dire. Tes contremaîtres ont perdu de leur arrogance, et pour cause. Fini les négociations sur notre dos. Tu devras accepter ce que nous serons imposés. On sait que tu n'as pas digéré ta séquestration. On sait que tu vas essayer de licencier. Toi et ta presse, vous avez crié au scandale, faisant appel à la légalité. Ta légalité à toi, c'est séquestrer les ouvrières depuis le bureau d'embauche en pleine jeunesse jusqu'à la sortie du tunnel où nous attend le chant des chrysanthèmes. Notre légalité à nous, c'est la justice populaire. Et celle-là, elle est à cran d'arrêt. Tu vas essayer d'éliminer ce que tu appelles dans tes rapports les meneurs. N'oublie pas que notre plus grande victoire, c'est l'unité que nous avons forgée dans la lutte, avec nos propres forces. C'est l'unité avec nos maris qui ont pris conscience de nos luttes de femmes. C'est l'unité avec les autres usines. Et notre combat fait tache d'huile. Et s'il le faut, un jour fera tache de sang. N'oublie pas, le plus important, ce n'est pas encore ces mesures que nous t'avons arrachées. Le plus important, c'est ce qui a changé dans nos têtes. Nous avons pris le droit de parler, le droit à l'action. Ces droits que depuis toujours, vous les patrons, vous réservez pour mieux nous asservir. Et pour ces droits, nous nous battrons avec violence. Pour les conquérir, pour les garder, jusqu'à ce qu'un jour, vous ne les ayez plus.
Sur ND Chaîne, Radio Galère 88.4. On vous dit à la semaine prochaine. On vous rappelle que cette émission, elle est rediffusée le vendredi matin de 8h à 9h15. Et que
voilà. Et que bah, y a des rencarts vendredi soir. Y a la cantine pour cantiner à la cuisine au 36 rue Bernard. Et il y a un concert à l'Exodus rue des Trois Mages. Voilà, concert de soutien à une caisse de solidarité qui s'est montée sur Marseille. Ciao, à la semaine prochaine.